en particulier de CEDERM. Je ne vais pas parler ce soir longuement du Kiddush, on en reparlera. Donc c'est Kadesh, ensuite il y a Kadesh Urchatz et Karpas, ça va ensemble. C'est pour le Karpas. On doit se laver les mains parce que le Karpas, c'est Tiboulo Vemashke, si on le trempe. Le Karpas, c'est la mise en appétit. C'est un impératif. C'est un impératif, c'est une mise en appétit pour la liberté. Il faut essayer, il faudra travailler, je ne vais pas le travailler ce soir, sur le lien. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une mise en liberté pour la liberté? Une mise en appétit pour la liberté, pardon. Et en particulier, comme vous savez certainement, il y a un lien entre Karpas et Maror, parce que sur tous les deux, on doit faire Borei Pri Adama, et on fait Borei Pri Adama sur le Karpas avec l'intention de s'acquitter du Borei Pri Adama, qu'on va dire bien plus tard, au moment où on va manger le Maror, on ne va pas refaire Borei Pri Adama, on fera seulement la bracha sur la Chilat Maror, mais pas, on ne refait pas la bracha de Borei Pri Adama. Alors pourquoi est-ce que Karpas, qui est l'apéritif, est lié avec les herbes amères? Ce n'est pas très difficile à faire le lien, on ne va pas le faire ce soir. Ensuite, il vient Yachatz, c'est-à-dire on prend la matzah du milieu ou celle d'au-dessus, d'après le Gaon, et on la prend en main, mais contrairement à ce qu'on fait d'ordinaire dans le seder, quand on prend la matzah en main, c'est qu'on va manger. Là, pas du tout, on ne va pas manger. Ici, on va partager cette matzah en deux parties inégales. Une petite partie et une plus grande partie. La plus grande partie, on va l'envelopper, on va la mettre de côté. Elle va attendre patiemment jusqu'au moment où on va manger la ficomane. C'est cette matzah-là qu'on va manger comme la ficomane. Et l'autre, le morceau, bon, on aura fabriqué un pain. Vous savez que la matzah s'appelle l'echemoni. Donc, c'est un pain pauvre au sens où il n'y a que de l'eau et de la farine, mais aussi c'est le pain du pauvre. Et donc, on fabrique, par définition, le pauvre, en général, il n'a pas un pain entier, il a plutôt des morceaux de pain. Donc, on a fabriqué un morceau de pain avec ce yachatz, quand on a partagé la matzah en deux. Donc, on va se rassasier, mais on ne va pas se rassasier tout de suite. On va d'abord passer au magid. Magid, c'est l'essentiel de la soirée. C'est le récit. C'est ce qui donne son nom essentiellement à la Haggadah Shel Pessah. C'est la Haggadah, le récit. Qu'est-ce que c'est que ce récit? Alors, on peut aussi dire que on commence par présenter l'acteur principal en l'absence du Korban Pessah. L'acteur principal, c'est la Matzah. Donc, c'est cette fameuse petite partie, c'est elle qui est sur le plat. Et en fait, on commence par dire que voilà, on présente cette Matzah. Et on dit, ben ça, cette matzah-là, c'est la matzah qu'on a mangée quand on était esclave. Et on dit, voilà, cette année, etc., vous connaissez. Et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que, voilà, tout de suite, on dit l'année prochaine, même si cette année, on est encore esclave, l'an prochain, on espère donc être libre. Et donc, on parle tout de suite de l'an prochain. Immédiatement, ce dont on va parler, c'est l'an prochain. On va parler du dessert, en quelque sorte. La matzah afikoman. Afikoman, ça veut dire dessert. Donc, on va parler de. On a déjà mis de côté l'afikoman et on parle déjà de ce qu'on va manger dans le futur. Mais le problème, c'est que à la fin du repas, c'est toujours la même matzah qu'on mange. C'est le même pain. Donc, c'est la même matzah. Et donc, cette matzah, elle a, durant la soirée, elle est, au début de la soirée, elle est le pain de pauvre, et à la fin de la soirée, elle est le pain de la liberté. Alors, j'ai déjà expliqué souvent que ce qu'on peut constater, c'est que tout ce récit, toute la partie du récit, elle va se faire à matzot découverte. On ne couvrira les matzot que quand on va prendre le kos en main, quand on va boire un des arba kosot, et même quand on le prend en main simplement pour la bracha sur la geoula, comme ça, on prend en main une partie du halel, et là, à ce moment-là, on couvre les matzot, mais autrement, c'est un matzot découverte. Et les matzot qui sont découvertes, elles sont en quelque sorte transformées par le bombardement du récit. C'est le récit qui bombarde les matzot découvertes et qui transforme ces matzot d'esclaves, une matzah du pauvre, en une matzah de l'homme libre. Voilà, donc ça c'est le commencement du récit en réalité. Après, normalement, il faut enlever la kehara. On fait des petites choses pour que les enfants posent des questions. Et on verse le deuxième kos et on va faire le récit sur le deuxième kos, sur le deuxième verre. Bon, l'enfant, il pose des questions au Manishtana. Je ne vais pas entrer maintenant dans le détail des Manishtana, comme à ce moment-là de la soirée, des questions sur les choses qu'il n'a pas vues. Ce n'est pas très important. Alors, par contre, ce qui est très, très important, c'est l'importance d'un récit qui commence par une question, ou par des questions. D'accord ? Il faut impérativement des questions, parce que la question, c'est ce qui va permettre d'ouvrir les choses. Ouvrir. C'est-à-dire, il existe, il faut savoir aussi qu'il y a aussi des questions qui n'ouvrent rien du tout. D'accord ? Le soir du Seder, il faut faire attention à ce que les questions soient des questions qui concernent le récit. Ce n'est pas le moment de poser toutes sortes de questions. Ça, on a tous les jours, toujours de Pessah, pour poser toutes les questions qu'on veut. Mais il faut, le soir du Seder, il faut des questions qui ouvrent, qui ont à voir avec ce qu'on raconte, et pas des questions... D'accord. Maintenant, souvent, malheureusement... Les enfants, ils reviennent de l'école, du Talmud Torah, de Feider, avec des questions. Et c'est des questions qui n'intéressent personne. D'accord, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas transformer. Le soir du Seder, c'est un récit. Et c'est le père qui doit, ou celui qui donne le Seder, c'est lui qui dirige. Et ce n'est pas les questions des enfants qui sont très intéressantes. Bon, il faut dire aux enfants qu'on va leur répondre aux questions peut-être pendant le repas éventuellement ou peut-être le lendemain. Et les questions, tous les petits mots, etc., c'est pas ça le récit. Il faut qu'on réfléchisse un petit peu sur ce que c'est que ce récit en quelque sorte. Il faut des questions donc qui en fait disent que le problème, c'est que la réalité qu'on voit n'est pas la vraie réalité. C'est ça qu'on va dire ce soir-là. Et il va y avoir donc un récit. Aujourd'hui, l'histoire, c'est la story, c'est l'histoire qu'on va raconter. On va raconter une histoire. Alors, il y a deux grands principes dans cette histoire. L'importance des questions. Et puis, la structure de l'histoire, ce qui est fondamental, c'est que l'histoire, elle va commencer, comme on dit, par le gnous, on va commencer par dire des choses négatives et aller vers des choses positives, des choses importantes. On va commencer par du rien, en quelque sorte, aller vers l'énorme. Ça s'appelle, on commence par du Gnus et on va Messayin Beshevach et on va terminer avec quelque chose de digne d'éloge. Et ça, c'est fondamental. On peut aussi dire que, si vous voulez, cette idée de penser par la nuit, aller vers la lumière, et c'est aussi commencer par du rien du tout et aller vers quelque chose. C'est comme ça que l'être humain, il est comme ça. C'est pas, on commence par quasiment rien du tout, éventuellement une cellule, et puis ensuite, on a un être humain. D'accord, même si c'est un bébé, d'accord, il a passé quand même de quasiment rien du tout à des centaines de milliers de cellules. Donc, cette structure-là, c'est une structure du monde. C'est la structure aussi dans l'histoire du clan d'Israël qui commence par l'exil en Égypte et ensuite on va vers la lumière. Et ensuite, tous les exils sont des exils qui sont censés nous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Donc, c'est toujours ce principe-là. Alors, voilà les... Maintenant, il y a un petit point que je voudrais retenir dans le Manishtana, c'est que vous entendez, on a l'habitude, on dit Manishtana Laila Azé. Or, il y a un problème, c'est une faute de grammaire, puisque Laila, c'est féminin, normalement, on devrait dire Manishtana Laila Azot, et pas Azé. Comment se fait-il que la Laila, la nuit, soit ici dite au masculin? Je donnerai la réponse que donne le Gaon, c'est que la plupart, pratiquement toujours, les mitzvot, assez, les mitzvot, elles sont liées à la journée. Et justement, les mitzvot, Achilat, Matzah, Tzemaror, Kohen Pessah, etc., ici, c'est spécial, ça a lieu la nuit. Et c'est pour montrer que la nuit, elle a quelque part une dimension de jour, mais ça, on sait très bien que la sortie d'Égypte, c'était bien la nuit. Enfin, ça, le gros morceau, il a eu lieu la nuit, mais on y voyait comme en plein jour. Et c'est parce que, vous vous souvenez, c'est Akadosh Baruch Hu qui a transformé la nuit du 14 au 15, il l'a transformé en jour. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, auquel ça dit quelque chose, je ne vais pas entrer de nouveau dans le détail, c'est Avraham Avinu quand il s'est occupé d'aller chercher Lot, c'est Avraham Avinu qui a transformé lui aussi la nuit en jour. Il a fait la guerre la nuit. Alors, on a fait la guerre. Alors, Hachem a dit, puisque toi, tu as transformé la nuit en jour pour Lot, moi, je transformerai aussi la nuit en jour pour tes descendants, pour les descendants d'Abraham Avin. Donc, c'est pour ça que c'est au masculin. Comme si c'était un jour, un yom. Ensuite, on continue toujours, je vous rappelle, la matzot découverte. Et bon, on va répondre un peu aux questions. Et il faut aussi savoir que cette idée de Matrilin Begnout ou Messayin Beshevach, ça correspond à l'histoire du peuple juif en réalité, parce que tout a commencé chez Avraham Avinu. Le Midrash dit qu'Avraham Avinu l'a vu un énorme palais, il l'a vu en feu. Et il s'est demandé, mais comment c'est possible qu'il y ait un palais comme ça et personne n'a l'air de s'en occuper? Il est en feu et personne ne s'en occupe. Où sont les pompiers? Qu'est-ce qui se passe? Qui est en charge de ce palais-là pour... Et là, c'est à ce moment-là que, parce qu'il a posé cette question-là, Hachem m'a répondu, c'est moi qui suis en charge. C'est moi, dit Hachem. C'est le monde. Et c'est moi le créateur du monde. Et du coup, la relation particulière entre Abraham et Hachem s'est constituée, elle est allée croissant. Donc on part d'une question sur Abraham Avinu, une question de fondamentale. On est dans un monde et on n'y comprend rien, mais le monde, il est à feu, il est en feu, il est en train de se détruire. Donc on va faire ce soir un récit. Alors, on peut dire que, en fait, ce qu'on va présenter ce soir, c'est, enfin le soir du Seder, c'est quelque chose comme le récit national. Tous les peuples ont un récit national dans lequel ils racontent comment, qui justifie en quelque sorte le peuple, qui explique ce qu'ils sont et comment ce qu'ils font dans le monde, et qui raconte ce qui s'est passé en quelque sorte. Mais voilà, les choses vont raconter quelque chose qui s'est passé, qui justifie qu'ils soient là. Et donc, c'est ça un récit, c'est le récit de quelque chose qui s'est passé, qu'on a jugé suffisamment important pour le raconter. Or, ce qu'on fait le soir du Seder, d'accord, ça s'appelle Sipur Yetziat Mitzrayim, eh bien, c'est exactement le contraire. Exactement le contraire, comme vous savez, dans les psukim, c'est marqué Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, voilà, j'ai encore quelques makot à envoyer à l'Égypte, sur l'Égypte. Et pourquoi est-ce que je les envoie? Ben, parce qu'ils doivent savoir qui est un IHM. Je veux que l'Égypte sache, et vous aussi, Bnei Israël, vous sachiez que je suis Hachem. Et surtout, le man te s'appelle afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de mon petit-fils tout ce que j'ai fait en Égypte, que je me suis moqué de l'Égypte, etc. J'ai complètement dominé l'Égypte. Donc, ici, on voit cet énorme chidouche, c'est que ce n'est pas du tout parce qu'il s'est passé quelque chose que nous le racontons. C'est pour qu'on puisse le raconter qu'Hachem a fait la chose. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en vérité, ce qui est fondamental, c'est le récit. Ce qui était fondamental, ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, c'est seulement de quoi nourrir le récit. Pouvoir faire un récit. Nous sommes un peuple du récit. Les autres peuples, ils ont bien un récit national, mais ils existent en dehors de leur récit national. Nous, quelque part, notre récit national, il est complètement différent, en quelque sorte. Chez nous, l'essentiel, c'est le récit. Et ce n'est pas l'événement qui est raconté dans le récit. Donc vous allez voir d'ailleurs que le rédacteur de la Haggadah, il n'est pas entré dans tous les détails. Par exemple, il va parler des makot, il ne va pas du tout entrer dans le détail des makot. Si vous voulez raconter toutes les makot, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas dans le récit. Si vous tenez à ce qu'a écrit le rédacteur de la Haggadah, il est anonyme, on ne sait pas qui c'est, mais a priori c'est un Tana. Et bon, ben, il s'est pas appesanti des choses. Oui, il y a eu des makotes, mais bon, l'important, c'est pas de raconter les makotes. Il y a quelque chose d'autre dans ce récit. Quelque chose qui est fondamental dans ce récit, c'est ce passage du rien à quelque chose. C'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Le clan Israël, il a jamais, si vous voulez, quand on va sortir d'Égypte, on va sortir quand on va atteindre le point le plus bas possible. Il n'y a presque plus rien. N'est-ce pas? Le Rambam écrit qu'en Égypte, on a pratiquement tout oublié de tout l'enseignement d'Abraham Avinu. Pratiquement tout. Il y avait la tribu de Lévi qui a encore gardé des choses, mais tous les autres, ils ont quasiment oublié. Ils sont devenus de nouveau idolâtres. Les Bnei Israël en Égypte étaient idolâtres. Et c'est à partir de l'idolâtrie, c'est rien, d'accord, c'est du vent. À partir de cette chose qui n'est rien du tout, voilà, c'est à partir de là que commence quelque chose qui est quelque chose qui fait que ces Bnei Israël qui étaient idolâtres, qui étaient rien du tout, tout à coup, au bout de relativement peu de temps, ils sont au niveau de Moshe Rabbeinu. Ils ont la nevoah pendant les deux premières paroles de Aseret HaDibrot. Ils sont au niveau prophétique de Moshe Rabbeinu, tout le clan d'Israël, en quelques semaines. Donc c'est impensable. C'est ça le récit. Un récit de, à partir de rien du tout, quelque chose d'énorme. Donc, je répète, l'important, c'est ce récit qui est un récit national, mais on va voir que ce n'est pas du tout un récit national comparable aux récits nationaux de tous les peuples. Ça veut donc dire que nous ne racontons pas une histoire dont nous nous souvenons. C'est pas comme ça. C'était, il n'y a pas un souvenir nécessaire de l'histoire. Il y a eu une histoire pour qu'on puisse en parler. Mais ce n'est pas qu'il y a eu une histoire fondamentale et on en a parlé, on s'en souvient. Pas du tout. L'histoire a eu lieu pour que je puisse la raconter. Maintenant, pour moi, je raconte cette histoire. Alors, le récit lui-même, on va le commencer, on est après Manishtana. Et en fait, ça a l'air qu'il y a deux récits. Il y a un récit qui commence « Avadim haïnou le pharaon de Mitzrayim ». Nous étions esclaves en Égypte et Hachem Elokeinu nous en a sortis de cet esclavage. Nous a libérés. Mais il y a aussi un autre récit qui dit « Mitrila ofde avodazara ayu avotenu » Nos ancêtres étaient idolâtres et Hachem nous a ramenés à son service. Alors, on a l'impression que c'est deux choses. Bon, ce n'est pas très surprenant parce que il y a une sortie de l'idolâtrie et une sortie de l'esclavage. La sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement la sortie de l'esclavage, c'est aussi une sortie de l'idolâtrie, puisque les Israël étaient redevenus idolâtres. Alors, on met beaucoup en avant, le texte met beaucoup en avant la sortie de l'esclavage, mais on va voir que peut-être qu'il faut faire apparaître que ces deux récits, en fait, n'en sont qu'un seul. Alors, on commence par Avadim Haïnou. On commence par le premier. Je vous rappelle, on est sur le deuxième cos, le deuxième vers. Alors, on verra, je raconterai, que chaque vers correspond à un des aspects de la libération. Pourquoi il y a quatre kosot, la soirée de Pessah? Parce qu'il y a quatre expressions que les Chachamim, qui sont des expressions au début de Parshat Vayera, que les Chachamim ont choisies pour effectivement, on peut dire, rythmer la soirée et pour mettre en avant à chaque fois un autre aspect de la sortie d'Égypte. Alors, ici on est, le deuxième cos, il correspond au verset où Hachem dit, où la Torah dit, « Vayotzienu Hachem Elokeinu, Hachem, notre Dieu, nous en a sortis de cet état d'esclavage. » Et tout de suite, on dit, « Et si il ne nous en avait pas sortis, nous serions encore, nous, anu, banenu, nevanenu, mishubadim, aïnu, le pharaon de Mitzrayim. » Nous serions encore, mishubadim, c'est-à-dire esclaves, de Paro en Égypte. Alors, cette phrase-là, elle est quasiment difficilement interprétable. D'abord parce que depuis l'Égypte de Paro, elle n'existe plus. Paro n'existe plus non plus. Donc, de quoi on parle ici? Alors, ce qui est dit, en tout cas dans ce texte, dans cette phrase-là, c'est dit que, en fait, il était impossible de sortir d'Égypte. On ne peut pas sortir d'Égypte. Et deuxièmement, seul Akadosh Baruch Hu, il pouvait et il nous a sortis d'Égypte. Alors, c'est trivial de dire que s'il ne nous avait pas sortis, on ne serait pas sortis. Oui, ça c'est C'est M. Lapalisse, il n'aurait pas dit beaucoup mieux. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vous ai dit qu'il n'y a plus d'Égypte, il n'y a plus de Paro. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent il faut sortir de son Égypte personnelle, etc. Peut-être que c'est une lecture, mais a priori, c'est pas ça du tout que dit le Baal Haggadah. Le Baal Haggadah dit une chose absolument extraordinaire, si vous voulez, là. Il dit la chose suivante. On va essayer de lire la phrase comme elle est dite, en réalité. Ilou, si il ne nous avait pas, si Hachem ne nous avait pas, Hachem notre Dieu, ne nous avait pas sortis d'Égypte, nous serions encore esclaves de Paro en Égypte. Si je veux rendre compte complètement de cette phrase, alors je dois dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu a créé un monde. Et a priori, Hachem veut être reconnu dans ce monde. C'est pour ça qu'il a créé le monde. Quand les hommes s'éloignent par trop du projet divin, alors Hachem intervient directement dans l'histoire. Il est intervenu directement dans l'histoire, par exemple, la tour de Babel. La tour de Babel, il est intervenu parce que ça n'allait pas, parce qu'ils avaient réussi à faire l'unité de l'humanité, etc., mais pour se révolter contre Hachem. Alors Hachem est venu, il a bouleversé les choses. Ce que je vous ai raconté de la question qu'Abraham avait, et qu'est-ce qui est le Baal Habira, qui est le maître de cet énorme palais ou de cette capitale-là, qui est en feu et personne n'a l'air de s'en occuper. Et Hachem est intervenu dans l'histoire et il a dit à Abraham, c'est moi. C'est moi qui suis en charge, c'est moi qui suis le maître de tout ça. Et Hachem est le maître, effectivement, de tout ça. Et en fait, il a décidé d'intervenir. Il intervient ici. Il intervient parce qu'il a promis à Avraham Avinu, après que, à la question d'Avraham Avinu, qui était, je répète, mais qui est le maître, il a répondu, c'est moi le maître. Et il a fait une alliance avec Avraham Avinu. Et il lui a dit, voilà, je vais m'occuper de ton peuple parce que c'est de cette manière-là que je vais être reconnu dans le monde. Donc, si vous voulez, Hachem intervient dans l'histoire. Il intervient dans cette histoire et il va intervenir pour nous faire sortir d'Égypte. Nous sommes en Égypte. C'était prévu qu'on aille en Égypte. Peut-être pas en Égypte, mais il était prévu, ça avait déjà été dit à Abraham, et c'est un choix qu'Abraham Avinu a fait, ton peuple ira en esclavage chez un peuple étranger, etc., qui le fera souffrir. Donc ça, c'est cette espèce de descente aux enfers, cette espèce de rien du tout, être réduit à rien du tout. Et Hachem intervient et il fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Alors, ilou lotsi, si Hachem ne nous avait pas fait sortir, c'est qui nous? Nous, c'est le clan Israël. Si Hachem n'avait pas fait sortir le clan d'Israël d'Égypte, alors nous serions, nous, clan d'Israël, nous serions encore en Égypte et encore sous la domination de Paro. Qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire du monde. Alors ça, c'est la magie. Vous allez, c'est comme ça que le Baal Haggadah pense. Et c'est comme ça que pense la Torah, en fait. L'histoire du monde, elle dépend d'Ebnei Israël. Pourquoi elle dépend d'Ebnei Israël? Parce que c'est eux qui sont en charge de veiller, de faire ce qu'il faut pour qu'Hachem soit reconnu dans le monde. Et comme c'est ça le but du monde, alors Hachem intervient pour permettre au Bnei Israël de créer des conditions qui vont lui permettre d'être reconnu dans le monde. Et donc, il faut bien savoir que le nous qui sont sortis des, le nous qui est sorti d'Égypte, c'est le Klal Israël, ce ne sont pas les individus. C'est une notion qui s'appelle Klal Israël. Nous. Et donc, si vous voulez, si nous ne sortons pas de Mitzrayim, alors il n'y a pas d'histoire. L'histoire du monde, elle n'a pas lieu. Il n'y a pas d'histoire du tout. C'est le clan Israël qui fait l'histoire. Et par conséquent, s'il n'y a pas d'histoire, alors tout est figé. L'Égypte reste en Égypte et Paro reste en Paro. Israël, c'est la possibilité de la réalisation du projet divin. Mais s'il n'y a pas de projet, si Israël n'existe pas, ben, il n'y a pas d'histoire. Si l'humanité se fourvoie complètement, l'histoire ne peut pas avoir lieu, alors Hachem intervient et il empêche la tour de Babel. Donc ça qui est fondamental ici, c'est une grosse affaire ici, c'est-à-dire ici on dit que si le clan Israël n'était pas, si Hachem n'avait pas fait sortir le clan Israël d'Égypte, il n'y aurait pas eu d'histoire, et l'idée que tout aurait été figé, ou ça veut dire l'Égypte serait toujours en Égypte, et nous aussi là-bas, et Paro serait toujours Paro, l'histoire se serait arrêtée en quelque sorte. C'est Pompéi, figé tel quel. Pas d'histoire. Et maintenant, le texte suivant, il est à Filou, Kulanu Chachamim, Kulanu Nevonim, Kulanu Zkenim, Kulanu Yodim et Torah, etc. C'est-à-dire, même si on a tout, toute la connaissance, la Chochma, Bina, Zikna, Dat, il y a tout ça, ça ne suffit pas. Toute la connaissance ne suffit pas. Il faut le récit. Bon. Ça va être tout de suite illustré avec l'histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, enfin, tous les Chachamim qui sont réunis là. Et qui se, c'est, eux, ils sont, c'est toute la Torah chez Baal Peh qui est réunie quasiment là-bas. On va y revenir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent la sortie d'Égypte. Ils connaissent l'histoire. Hein. Ça veut dire qu'ils racontent la sortie d'Égypte. Alors, l'idée, c'est que qu'est-ce que fait le récit? Si le récit, c'est simplement de la sagesse, de la bina, etc., ben on l'a. Alors si on a tous les rachamim, etc., alors on n'a pas besoin du récit, pourtant on voit bien qu'il faut ce récit. Parce que le récit, il doit être vécu. Ce n'est pas un récit sec. C'est un récit qui doit être vécu avec ses émotions, en fait. Et on dit « Kol amarbe le saper arezem meshubach ». Plus on en raconte, plus on est digne d'éloge en quelque sorte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce récit-là, c'est ce récit, le fondement de notre émouna. Le fondement de notre émouna, c'est bien l'histoire de la sortie d'Égypte, le récit de la sortie d'Égypte. 49 fois dans la Torah, on parle de la sortie d'Égypte. Tout est ramené à la sortie d'Égypte. Alors, notre émouna, elle est fondée là-dessus, et plus on raconte, mieux on raconte, si on veut, plus notre émouna a du goût, pour donner du goût à notre émouna, ben il faut raconter tant et plus. Encore une fois, il faut au moins le récit. Peut-être que le Brahma Gada dit que voilà, il faut le récit. L'illustration, c'est justement le texte suivant qui ramenait là, qui est Massé, Brahma Lézer, Brahma Choua, Rabbi Tarfon, etc., qui étaient tous chez Rabbi Akiva à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'ils faisaient chez Rabbi Akiva à Bnei Brak? Les airs Rabbi Yehoshua, ce sont les maîtres de Rabbi Akiva. Comment se fait-il que les maîtres vont chez l'élève? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Est-ce qu'on nous dit qu'ils sont allés là-bas et ils ont raconté la sortie d'Égypte pendant toute la nuit? On peut imaginer qu'ils la connaissaient, la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils se sont bien racontés? Qu'est-ce qu'ils ont raconté pendant toute la nuit? En fait, ce récit que nous faisons, il nous parle d'une certaine manière d'un autre monde. C'est un monde qui est hors du temps ordinaire. Un monde où Hachem intervient. C'est pas quand ce qu'Hachem veut, c'est qu'on reconnaisse qu'il intervient en permanence. Même si ça ne se voit pas avec les yeux ordinaires et en temps ordinaire. Il s'agit d'apprendre à reconnaître qu'Hachem est sans cesse en train d'intervenir. Et que même dans les situations qui paraissent complètement désespérées, où on a tendance à dire « mais où est-ce qu'il est, Hachem, là ?» Non, il est là, il est toujours là, il intervient. Et pourquoi est-ce qu'ils sont allés chez Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, c'est le spécialiste, si on peut parler comme ça, le spécialiste qui est capable, dans toute situation, il arrive à montrer comment Hachem intervient pour le bien, en quelque sorte. C'est toutes ces situations dans lesquelles il se promène dans les ruines du Beth Amikdash, etc., et tout le monde pleure, et Rabbi Akiva, il rit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la situation est désastreuse. Le Beth Amikdash est détruit, etc. C'est vrai que c'est désastreux, mais ça correspond à une prophétie. Et la prophétie, elle a une suite. Et Rabbi Akiva dit, mais voilà, la prophétie est en train de se réaliser. Elle commence toujours par, on commence le gnaï, on commence par le négatif, on commence par la destruction. On commence par le rien du tout et on va vers la lumière. Et Rabbi Akiva, à chaque fois, il explique comment, dans cette situation-là, il faut être capable de voir la lumière parce que ce qui arrive est décrit dans la Torah. Et dans la Torah, c'est décrit comme amenant la lumière. Et donc, lui, il est capable. Et donc, même si eux sont ses maîtres, mais lui, il est capable, Rabbi Akiva, lui, de voir réellement ce côté complètement positif. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a disparu ici. Je ne vois plus personne. Bon, voilà. Alors moi, s'il en reste qu'un. Voilà. Allô. Et ils sont dans un monde complètement différent. Ils sont hors du temps ordinaire. Et l'ordre, le seder ordinaire est bouleversé pour eux. Ce seder ordinaire, cet ordre ordinaire, en quelque sorte, n'existe pas pour eux. Parce qu'ils sont dans le moment où Hachem entre, est entré dans l'histoire, en quelque sorte. Avec Rabbi Akiva, ils voient, alors qu'ils sont dans des moments absolument terribles, on est sous la domination romaine qui a tout détruit. Ils sont là, c'est toute la Torah orale, en quelque sorte, est là. Il raconte la sortie d'Égypte. Raconter la sortie d'Égypte, bien sûr, ça se lit à toutes sortes de niveaux, la sortie d'Égypte. Ce même récit se lit probablement à de nombreux niveaux, jusqu'à ce que les élèves viennent et leur disent « Attention, le monde, il continue de tourner. » À l'extérieur, il continue aussi. C'est-à-dire, le Zman Kriyat Shema est arrivé. Ils ne faisaient pas attention. Pourquoi? Il y a quand même une question dans cette situation-là. C'est que c'est le soir du Seder. Pourquoi ils ne sont pas chez eux avec leurs enfants? Ou au moins chez eux avec leurs élèves? Les élèves sont là, mais ils ne sont pas en même temps qu'eux. Les élèves viennent leur dire, les élèves ils sont dehors, eux ils sont dans le temps ordinaire. Pourquoi ils ne sont pas avec leurs élèves? Parce que eux sont à un niveau tel, de voir l'intervention d'Hachem dans le monde, ils sont dans ce récit de la sortie d'Égypte, comprennent que eux ils savent ce qu'il en est de raconter la sortie d'Égypte. Et on voit très bien que, par exemple, ils vont parler de la sortie d'Égypte toute la nuit. Or, a priori, la sortie d'Égypte, elle se raconte pendant la période où on peut manger le Korban Pessah. Or, il y a une machloquette pour savoir jusqu'à quand on peut manger le Korban Pessah. Certains disent qu'on peut le manger seulement jusqu'à Hatzot. D'autres disent qu'on peut aller jusqu'au matin. Mais ceux qui, dans ces maîtres-là, il y avait certains pensent qu'on ne peut pas manger le Korban Pessah au-delà de Hatzot. Mais ils ont néanmoins continué de parler de la sortie d'Égypte pendant toute la nuit. Parce que toute la nuit est une nuit particulière, mais le Korban Pessah, c'est une chose, c'est une mitzvah avec ses limitations, etc. Mais la sortie d'Égypte, ça concerne toute la nuit, puisqu'en fait, c'est faire en sorte que la nuit soit jour, c'est-à-dire qu'on y voit clair comme en plein jour. Alors, eux, ils étaient capables d'y voir clair comme en plein jour, probablement sous la direction de Rabbi Akiva. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas être. C'était fondamental, ils devaient probablement prendre des décisions à la lumière, à la sortie d'Égypte, puisqu'il s'agissait de guider le clan d'Israël à ce moment-là. Et ensuite, on nous raconte l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria, qui dit j'ai l'air d'avoir 70 ans, etc. Je n'ai pas réussi à ce qu'on dise le troisième paragraphe du Shema qui contient la sortie d'Égypte. La nuit, le soir, ça veut dire que on voit là-bas, on parlait de nuit aussi, on parlait les hâtis de Lavo. La sortie d'Égypte, c'est un sujet qui doit nous préoccuper, nous accompagner sans arrêt. Sinon la Emouna, elle est trop sèche. C'est-à-dire, Hachem n'a pas seulement créé le monde, mais il veut y entrer, il veut être là. Et ce sont les hommes qui doivent faire en sorte que Hachem puisse être là. Et ensuite, le texte continue. Baruch, Shomer, etc., Avtachato, etc. Et Baruch Hu, c'est la base de la Torah. La Torah vient de ce que Hachem veut pénétrer la réalité. La Torah nous donne la structure. Elle nous dit comment Hachem entre dans la réalité. Il nous dit pour qu'Hachem, quelque sorte, puisse entrer dans la réalité, la Torah nous dit comment. Comment est-ce qu'il faut se comporter? Elle nous dit que la Torah, elle parle à chacun, évidemment, selon ce qu'il est. C'est-à-dire, en fait, dans le clan d'Israël, il y a différentes façons de voir la vie, en fait. Différentes façons de considérer le monde. Il n'y a que le clan d'Israël qui sort d'Égypte. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui sortent, qui composent ce clan d'Israël, sont formatés de la même manière. Il reste différentes façons d'envisager le monde, différentes Weltanschauung, différentes façons de regarder le monde. Et là, on nous dit que ça parle selon quatre banim. Bon, banim, ce sont ceux qui posent des questions. Alors, il y a un chacham, il y a un racha, il y a un tam, et il y a Sheino Yodea Lishol. En vérité, il y a deux grandes catégories. Il y a le chacham et le racha. Et puis, il y a le tam qui est un chacham, mais pas complètement chacham. Et il y a le Sheino Yodea Lishol qui est un racha, pas complètement racha. Le chacham, c'est celui qui pose la question « Ma'ai, dout, vahouki, ma mishpatim, etc. » Donc, le chacham, c'est quelqu'un qui il connaît les mitzvot et il sait que dans les mitzvot, il y a toutes sortes de... Il y a des catégories de mitzvot. Qui sont des chukim, des mitzvot qui sont des mishpatim, des mitzvot qui sont des eduyot, etc. Et la question qui se pose, que le Baal Hagada nous pose, c'est quoi la sortie d'Égypte pour un chacham? Ça lui pose quel problème à lui, qui est déjà quelqu'un qui connaît là? Alors, on a vu que ça ne suffit pas. On a vu plus haut que Afilou, Kulanu, Chachamim, Nvonim, etc. Il faut quand même le récit. Alors, qu'est-ce que lui apporte à lui le récit? On va essayer d'être un peu plus précis. Qu'est-ce qu'on lui répond? Alors, on lui répond une drôle de réponse. On lui répond « En maftirin acha pesach afikoman ». On lui donne, d'une certaine manière, la dernière halakha de la soirée de Pesach, qui dit qu'il n'y a pas de dessert après le korban de Pesach. Alors, de quoi il s'agit? Pourquoi il y a un dessert en général? Pourquoi on mange un dessert? A priori, on mange un dessert pour peut-être pour enlever les goûts de la viande qu'on a mangée avant. Il reste certaines choses qu'on a mangées, elles laissent un goût. Et on n'a pas envie d'avoir ce goût-là. On n'a pas envie de rester avec le goût du poulet ou le goût de la viande ou le goût du poisson dans la bouche. Alors, on va manger un dessert qui va nous donner, en général, c'est de la fraîcheur ou de la douceur, etc., qui va mettre autre chose en bouche. Et là, on nous dit que pas du tout. La Gemara explique que dans le Korban Pessah, c'est justement le contraire. Dans le Korban Pessah, on veut garder le goût. On veut que ce goût nous accompagne. Et pour être sûr qu'on va le garder, eh bien, on s'interdit de prendre des desserts. Donc, on va garder le goût. La dernière chose qu'on mange le soir du Seder, c'est le Korban Pessah. Le Korban Pessah, il est mangé à la sova. D'abord, c'est de la viande grillée qu'on mange quand on est complètement rassasié. Il y a un kuzait, on mange quelques dizaines de grammes de viande grillée, d'agneau grillé. Ça laisse évidemment un goût dans la bouche et on te dit il faut garder ce goût-là. Quoi, c'est le goût que je veux que tu gardes. Donc il y a quelque chose, on voit bien cette idée que on veut que, puisqu'il s'agit ici de fortifier notre et de fonder notre émouna, on veut que ce que le travail qui a été fait dans cette soirée et qui culmine avec le Korban Pessah, on veut que ce travail-là nous accompagne. En vérité, on voudrait bien qu'il nous accompagne toute l'année. Le soir du Pessah, c'est quelque chose qui doit nous faire vivre toute l'année. Parce que c'est un problème d'Emouna, et l'Emouna, c'est une mitzvah qu'on a toute l'année, et donc il faut la fortifier, cette émouna, et c'est ce qu'on fait le soir du Seder. On va la fonder. Et donc, on dit, voilà, il faut que le soir du Seder, on veut garder le goût. Le goût, c'est quoi le goût? On veut que ce récit, en fait, qui culmine avec on va voir après, mais qui culmine avec la consommation de Korban Pessah, enfin, qui culminait du temps où on avait le Beth Amikdash. On veut que ça garde le goût de ce récit national, en quelque sorte, que nous nous faisons. Le récit national du peuple juif, en fait, du Klal Israël. Ça, c'est le Chacham. Le rachat de Pessah, c'est pas un rachat ordinaire. Le rachat de toute l'année, c'est un type qui mange un Yom Kippour, qui tient à rien, un peu idolâtre, un peu, etc., tout ça. Le soir du Seder, le rachat dont on parle, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il dit « Ma avoda azot lachem ». Qu'est-ce que c'est que cette avoda que vous vous imposez? Donc, il parle spécifiquement, a priori, de l'avoda du soir du Seder, c'est-à-dire de ce récit. Qu'est-ce que vous imposez ce récit qui est un récit qui est complètement fou, qui n'est pas du tout un récit national au sens habituel des récits nationaux. C'est un récit qui parle de l'intervention d'un chien dans l'histoire. C'est pas du tout un ignorant. C'est un rachat spécifique, spécial Pessah. Lui, il pense qui pense qu'à lui. Dans son monde, il n'y a que lui. Ce qui est au centre de son monde, ce n'est pas le clan d'Israël. Ce n'est pas le clan d'Israël, c'est-à-dire, ce n'est pas le projet d'Hachem. Pour lui, le clan d'Israël n'a aucun rôle. C'est intéressant, c'est rien, c'est l'achem. Vous imposez des trucs pour rien du tout. Ça rime à rien. Ici, on ajoute quelque chose d'un peu surprenant, là. Va fata akeh chinav. Là, quelque part, on nous dit qu'il faut lui agacer les dents. Ça veut dire, en fait, il faut lui envoyer quelque chose dans les gencives, quoi. Qu'est-ce qu'on va lui envoyer? On va lui dire le pasouk de l'essentiel de celui qui parle de ce récit. Ce récit qui dit justement que Hachem dit, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai fait, ou je continuerai de faire tout ce que j'ai fait avec les makot et tout. Pourquoi le man te s'appelle pour que tu racontes? Et on va dire que Hachem a fait tout ça, bavour. Hachem a fait les choses pour moi. C'est-à-dire, Hachem a fait les choses pour moi au sens où on vient de ce qu'on a dit précédemment. C'est-à-dire, les choses, elles sont faites par Hachem pour que je puisse les raconter. Pour que moi, je puisse les raconter. C'est-à-dire, on est sorti d'Égypte pour raconter. Or, toi, tu considères qu'il n'y a rien à raconter, ce n'est pas intéressant, ça ne joue aucun rôle pour moi. Tu ne serais pas sorti d'Égypte, c'est simple. C'est ça, on va le remettre en place. Ça veut dire, tu t'imagines que tu es là pour toi. Tu es là parce que toi, personne, à titre personnel, personne n'est sorti d'Égypte. Seul le clan Israël est sorti d'Égypte. Et puisque toi, tu n'as rien à voir avec le clan Israël, tu ne serais purement et simplement pas sorti d'Égypte. Est-ce que ça lui fait de l'effet ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans notre récit, on a intégré aussi différentes façons de voir le monde et comment est-ce qu'on doit se situer par rapport à ces différentes façons de voir le monde. Alors, je vous ai dit le tam. C'est le Chacham version amicale, quoi, quelque sorte, version light. Le Chacham, il est intrigué par ce nouvel ordre. Bon, il n'est pas capable d'entrer dans les détails parce qu'il est tam, parce qu'il est relativement simple. Il n'est pas capable, ce n'est pas un Chacham. Le Chacham, lui, il est capable, il entre dans les détails, etc. Lui, il n'en est pas là, mais il est quand même très intrigué par ce qui se passe. Et on va lui répondre à son niveau. À son niveau, c'est-à-dire, on va lui répondre, voilà, Hachem nous a sortis d'Égypte de façon miraculeuse, etc. Donc, on lui donne une réponse qui n'est pas très élaborée, parce que la question n'est pas très élaborée. Et plutôt parce que la question, Mazot, qu'est-ce que c'est ce truc, ça montre qu'il ne va pas plus loin. Et très souvent, dans les questions que quelqu'un pose, il ne faut pas obligatoirement répondre de façon beaucoup plus riche que la question. Parce qu'a priori, si la personne a posé cette question comme ça, c'est qu'elle a besoin d'une réponse à ce niveau, elle pourra ensuite peut-être poser une nouvelle question plus précise. Il ne faut pas utiliser la question pour ensuite raconter plein d'autres choses. Alors, le chéno yodé alishol, c'est peut-être le plus intéressant. Ça, c'est le copain du racha, quoi. Alors, quand on dit chéno yodé alishol, bien entendu, il ne s'agit pas d'un enfant qui ne sait pas poser, ça c'est rien du tout. On parle de quelqu'un qui ne sait pas poser les questions, alors qu'il est en âge et en capacité théorique de poser les questions. Lui, par opposition, je vous dis, c'est la forme faible du rachat, parce que le rachat, il se considère, moi, j'ai rien à voir avec le clan d'Israël. Lui, il dit, moi, j'appartiens au clan d'Israël. Mais bon, vos histoires du passé, vos histoires de ce qui s'est passé en Égypte, etc., ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas archéologue, je ne suis pas intéressé par ces trucs. Ça ne me touche pas. Par contre, je suis intéressé par... À l'avenir du clan d'Israël, j'appartiens au clan d'Israël. Je réfléchis au futur du clan d'Israël. Mais tout ce qui est de passé, les traditions, tout ça, ça me touche pas. Lui pense que ce qui est vraiment intéressant pour le clan d'Israël, c'est son futur. Il faut réfléchir au futur, comment on peut réussir le futur du clan d'Israël. Alors lui, la raison pour laquelle il ne pose pas, il ne peut pas poser les questions. Ce n'est pas comme le Racha qui ne pose pas de questions parce que pour lui, le clan d'Israël n'a aucune importance. Il n'y a que lui qui existe et il s'imagine qu'il peut être... Je suis un juif, mais bon, tout seul, je n'ai rien à voir avec les juifs. Lui, il pense, justement, à ce dont on a parlé, il pense que la raison pour laquelle on pratique cette tradition, qu'on va manger du carpas, de la matzah, etc., il pense que c'est en souvenir de ce qui s'est passé. On essaye de recréer le passé. C'est-à-dire que, ok, voilà, on dit, Hachem s'est occupé de nous, il nous a sortis d'Égypte, d'accord. Bon, mais voilà, maintenant c'est fini, c'est ok, on est là, maintenant on est là. Ah, il s'est passé des choses, il y a eu toutes sortes de tsarot du clan d'Israël. Okay, c'est le passé, regardons l'avenir. Quelle est la réponse? La réponse, c'est tu te trompes complètement. C'est-à-dire, ce qu'on a déjà dit de toutes sortes de manières ici, c'est que l'histoire, c'est-à-dire tout ce qu'on raconte là, c'est pas que ça a eu lieu et toi tu dois t'en souvenir, et c'était pas du tout. Ça n'a eu lieu que pour toi. C'est pour toi, pour ton présent, pour ton futur, que ce passé a eu lieu. C'est pour que tu puisses construire le présent et le futur que le passé a eu lieu. L'histoire, elle a eu lieu à cause de toi. C'est ça la réponse qu'on lui donne. C'est-à-dire que il faut que tu révises, tu t'imagines, ne t'imagine pas qu'on peut construire le futur, que nous, on essaie de construire le futur par souvenir du passé. Pas du tout. C'est qu'en vérité, tout le passé, en quelque sorte, est tendu vers le futur. Dès le début du Seder, on parle du dessert. Et on met tout de suite la picomane de côté. Ou si on veut en parler en termes de Pessah ou de fin de l'histoire. Au début, on parle tout de suite de la fin de l'histoire. Ça, c'est le côté récit de Avadim Ayin ou le pharaon de Mitzrayim. Mais je vous ai dit, il y a un deuxième récit qui est le fameux récit de Avadim Ayin, de Mitrila, Ofde Avodazara et Avoten. Au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Mais maintenant, Kervanu Amakom Lavodato. Akadosh Baruch Hu, Amakom, c'est le nom d'Hachem. C'est un nom sur lequel on reviendra peut-être une autre fois. Je n'ai pas le temps maintenant d'en parler. Mais Hachem nous a approché Lavodato à son service. Dans Avodato, il y a toujours cette idée de Eved, n'est-ce pas? Nous étions esclaves de Paro, Hachem nous a rachetés, ou Pada Otanu nous a rachetés à Paro, et du coup nous sommes ses esclaves à lui. Et donc, Hachem nous a rapprochés et il a fait de nous ses serviteurs, ses esclaves, ceux qui font son travail, Avodato. En vérité, c'est un peu paradoxal, mais c'est bien ça. Qu'est-ce que fait un esclave? L'esclave, c'est quelqu'un qui travaille pour son maître. Ça veut dire travailler pour son maître. On sait faire ce que le maître, si lui n'était pas là, devrait faire par lui-même. Et donc, on entend ici quelque chose d'assez énorme. Ce qu'Hachem nous demande de faire, Kervanu la Avodato, il lui demande de faire son travail à lui. Ce qu'Hachem lui-même devrait faire, si on peut parler comme ça, c'est son affaire, il nous demande de le faire. Il semble à quelque chose dont on a déjà parlé dans d'autres shiurim, je crois. C'est juste, ceux qui sont au courant, c'est bien. Vous vous souvenez, je vous ai rapporté plusieurs fois, je crois que dans la Gemara, on se demande, si la Gemara se demande, est-ce que les Kohanim sont Shluchei de Rachmana ou Shluchei d'Idan? Les Kohanim sont nos envoyés à nous, Klal Israël, ou est-ce qu'ils sont les envoyés d'Hachem? Et la halakha, elle est, on est possède qu'ils sont Shluchei de Rachmana, ils sont Shluchim d'Hachem. Alors, si on, de nouveau là, si on prend les choses à la lettre, et si on, en fait, d'une certaine manière, il faut les prendre à la lettre, ça veut dire que Hachem fait faire par les Kohanim des choses qu'il devrait faire par lui-même, si on peut parler comme ça, devrait. Ouais. Au lieu de les faire lui-même, il les fait faire par ses shlichim, par ses remplaçants, par les gens qu'il a délégués pour le faire. Mais du coup, c'est comme si lui, il faisait, puisqu'il y a une halakha qui dit que Shlucho, bon, c'est chez la dame, mais le chaliar de quelqu'un, c'est comme lui-même. Donc, c'est comme si Hachem lui-même, donc ça veut dire tout ce que font les Kohanim, en réalité, c'est comme si Hachem le faisait. Mais du coup, c'est comme si ce qui se passe au Bet Amigdash, par exemple, qui est un service d'Hachem, ben, qui est-ce qui fait le service d'Hachem? Ben, c'est Hachem lui-même. Simplement, il a délégué ses... Des gens pour faire à sa place son travail. Mais c'est bien de son travail qu'il s'agit. Donc c'est la même idée encore. C'est-à-dire que nous, Bnei Israël, nous avons à faire ce qu'Hachem a à faire. Hachem s'est établi un programme et puis ensuite il dit aux hommes, bah, faites-le. Par exemple, si vous voulez juste un exemple en passant, Hachem dit, voilà, j'ai fait quelque chose qui est discutable avec la lune, alors à Rosh Chodesh, vous allez apporter à ma place le korban que je dois apporter parce que j'ai fait quelque chose de pas très juste par rapport à la lune. Ça veut dire que nous, on va apporter à la place d'Hachem le korban. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est simplement un exemple parmi d'autres. En vérité, toute la avodato, c'est faire ce que lui devrait, je sais pas, il faut pas dire devrait, mais qu'il veut faire, et il nous dit faites-le. Donc c'est formidable de confiance qui nous est, la confiance qui nous est faite en nous disant faites pour moi en mon nom en quelque sorte. Et c'est pour ça que ça devient très grave si on fait pas les choses comme Hachem a dit de les faire, parce que quelque part on est fait pour faire en son nom. Alors c'est comme si en son nom on faisait pas les choses bien. Alors ça commence Mitrila Ovdei Avodah Zarah Ayu Avoteinu, etc. Terach. Alors ça c'est Shalom Aleichem. Je veux dire, c'est la première fois qu'on apprend que Terach c'est notre ancêtre. C'est vrai que physiquement il est notre ancêtre. Terach, c'est vraiment l'ancêtre du clan Israël de tous les côtés, puisque c'est du couple de Terach et Amtelai, son épouse, que tout le clan Israël vient, les hommes, les femmes, tout le monde vient. D'accord ? Tous les hommes, bon, Abraham, Israël, Jacob, bien sûr, mais Rivka, elle est de Nahor, frère d'Abraham, enfin, petite fille, quoi. Et Rachel et Léa, elles sont par Lavan, même aussi de Betuel, etc. Donc, oui, et Sarah, elle est de Haran. Donc voilà, c'est Sarah, Abraham, Yitzhak Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, sont tous des descendants du couple Terach et Amtelai. Excusez du peu. Je suis désolé parce que c'est pas un maître, faut pas le dire, faut le dire à personne parce qu'ils sont pas très respectables ces gens-là. Mais bon, c'est comme ça. Donc, au commencement, il y avait là. Alors, c'est parce que on commence à Terach. En vérité, c'est pas tout à fait comme ça, mais il y a une partie avant, parce que Adam Arishon, il était, et d'abord il connaissait parfaitement Hachem, il était les tirs capables chez la Kadosh Baruch Hu. Ensuite, les gens se sont éloignés. On est parti de la connaissance d'Hachem vers l'éloignement maximal, si on veut. Et puis, de fil en aiguille, on s'est complètement disqualifié avec le Maboul, avec la tour de Babel. Et quelque chose recommence. Et on a l'impression que ça commence normalement avec Abraham Avinu, mais en vérité, le texte ici dit qu'Abraham Avinu, lui aussi, il était idolâtre avec tout le monde, n'est-ce pas? Son papa était idolâtre et il a été éduqué comme idolâtre et il a pratiqué l'idolâtrie aussi. Et puis, ensuite, il y a quelque chose qui très souvent me dérangeait un peu, c'est que si vous lisez ce texte qui vient après, c'est marqué « Va'ekar, j'ai pris Abraham, va'oler et je l'ai amené ». Vo'arbe, j'ai lui donné une descendance. Vo'eten, j'ai donné. Il n'y a que Hachem. C'est tout Hachem qui fait. Hachem dit, j'ai fait ça. On a l'impression qu'Abraham, qui me dérangeait, je disais, j'étais plus jeune, je disais, bah, finalement, on a l'impression qu'Abraham, il n'a pas beaucoup de personnalité, quoi. Les avot, ils sont complètement manipulés par Hachem. Mais c'est vrai. En vérité, c'est Hachem qui tire les ficelles ici, complètement. Et c'est clairement Hachem. Jusqu'à ce qu'on arrive à la séparation Yaakov et Sav, et où on nous dise que on a désintéressé Sav en lui donnant Arseir, et Yaakov ou Banav Yardou Mitzrayim. Et Yaakov et ses fils descendent en Égypte. Ils descendent en Égypte. Alors, un petit peu plus tard, on va devenir Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim. Ça veut dire qu'en réalité, il y a bien deux récits, un qui parle de la sortie de l'idolâtrie, un qui parle de la sortie de l'esclavage. Mais d'abord, il y a une sortie de l'idolâtrie, puis ensuite seulement une sortie de l'esclavage. Ça, c'est un sujet sur lequel on peut peut-être revenir par la suite. On peut réfléchir tout seul aussi. Hein. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que l'histoire, elle a l'air de commencer, bon, puisque nous, on dit, le clan d'Israël, il est né en Égypte. D'accord, c'est d'une certaine manière, le clan d'Israël naît en Égypte. On peut dire, je pense clairement, l'Égypte est considérée comme la mer, d'accord, la mer d'Israël, mais c'est une mer porteuse. C'est pas une mer qui a conçu, elle a rien conçu du tout. Puis ensuite, c'est une mauvaise mer. Bon, elle a tout pour plaire. Mais enfin bon, en tout cas, c'est quand même la mer quelque part. L'Israël. Alors, l'histoire, on a l'impression qu'elle commence en Égypte, l'histoire du clan d'Israël, puisqu'on est né en Égypte, donc l'histoire commence en Égypte. En fait, elle a déjà commencé avec, comme on a dit, Yaakov qui est descendu en Égypte. Mais en fait, elle a même commencé avec Abraham Avinu. D'accord ? En fait, ça veut dire l'histoire, elle a commencé avec Abraham Avinu. Et on a dit Baruch Shomer Avtachato, que Hachem, il garde la promesse qu'il a faite à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait comme promesse? Il a dit à Abraham Avinu que c'est mon affaire. C'est en fait, j'ai un plan et je vais le faire réussir. Et Hachem, voilà, je vous prends, vous. Je vous intègre. C'est ma décision. Je vous ai intégré dans mon plan. Vaekach et Avraham. J'ai pris Avraham. Alors, je l'ai persuadé, même si prendre veut dire prendre avec des paroles, peut-être. Pris Avraham. Des fois, dans le texte, on a l'impression que c'est Avraham qui va vers Hachem, mais ici, le rédacteur du récit national en question, alors, il dit clairement, Vaekach, j'ai pris, dit Hachem. J'ai pris, je l'ai amené, etc. C'est moi, Hachem. L'histoire commence de cette manière-là, par une promesse qu'Hachem fait à Abraham Avinu. C'est dans Brit Ben Abtarim, l'alliance entre les morceaux. Où Hachem dit à Abraham Avinu, c'est mon problème, je vais m'en occuper, je vais faire réussir le plan. Bien sûr, vous allez avoir des ennuis, parce que, en fait, d'abord, vous ne serez pas complètement à la hauteur, parce que c'est marqué que Hachem Chishev et Haketz. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a compté le moment adéquat pour nous sortir d'Égypte. Mais comme vous savez, on est resté 210 ans en Égypte, alors que le programme, c'était 400 ou 430 ans. Mais Hachem, il sait compter. Le problème, compter, c'est toujours un problème. On sort d'en parler, Achashverosh, Belshazzar, etc. C'est tous des gens qui n'ont pas arrêté de compter. Ils comptaient les 70 ans de l'exil, mais ils ne savent pas compter. Mais Hachem, lui, il sait compter. Alors Hachem a dit à Abraham Avinu, ils vont être esclaves, ils vont souffrir, mais ils vont sortir avec Rechush Gadol. Ils vont sortir avec un grand butin. Le grand butin, c'est pas essentiellement, je crois, l'or et l'argent. C'est bien sûr, il y a de ça aussi. Mais le grand butin, si on peut parler comme ça, c'est d'en être. Ce qui est extraordinaire, fabuleux, c'est qu'Hachem nous a choisis pour être dans son plan, pour être ceux qui sont en charge d'exécuter son plan. Servanula Vodato. Il nous a rapprochés et il nous a dit, c'est vous qui allez faire mon boulot, faire mon travail. C'est convenable de dire ça sur la chaîne. Vous allez faire mon travail. Alors, Dieu, on va être associé à Hachem, mais c'est nous qui allons faire le travail. Hachem va nous dire comment on le fait, le travail. Mais c'est nous qui allons le faire. Alors, bien entendu, cette situation-là, elle est quasiment inacceptable pour les autres peuples. Voilà, c'est inacceptable et toute l'histoire, elle va être effectivement les ennuis qu'on va avoir avec tous les autres peuples qui ne supportent pas effectivement ce choix d'Hachem. Au point qu'on va dire qu'au Sinaï, nous on a reçu la Torah, ils ont reçu la Sina, la haine des Bnei Israël. Eux, ils sont dans un monde, les goyim sont dans un certain monde, dans lequel il n'y a pas de place pour un représentant, enfin, pour un peuple qui se dit le peuple d'Hachem. Alors, les Bnei Israël disent, le monde, c'est un monde qui est fait pour servir Hachem, c'est-à-dire pour être l'esclave d'Hachem, être celui qui fait le travail. Et les goyim disent pas du tout. Nous, on a un monde qui va très bien sans lui, merci. Donc, nous, on est quasiment dans un monde second, si on parlait comme ça. Si on reprend, on peut reprendre à Yaakov. En fait, bon, on sait que Yaakov, mais en fait, ça commençait déjà chez Abraham Avinu, mais en filigrane, c'est chez Abraham Avinu. Et ça commence avec, on nous dit, voilà, il y a un récit, on a beaucoup souffert chez Paro, mais on vous rassure tout de suite, il y a pire que Paro. Pire que Paro, c'est Laban. Parce que Paro, il n'avait pas un projet de détruire le clan d'Israël. Il voulait garder les filles, il allait garder, bon, il voulait, c'est pas très clair, la main d'œuvre, d'un côté, il faisait travailler jusqu'à les faire crever, d'un autre côté, disant on n'aurait jamais dû le laisser partir, on avait des esclaves gratuits, etc. En tout cas, en Égypte, il n'y a pas de projet de solution finale, disons. Mais Laban, c'est clair. Hein. Donc, lui, il veut Mikesh, l'accord est à col. Lui, il veut tout arracher. Il y a deux naissances du clan Israël, une chez Abraham Avinu, une à l'époque de Moshe Rabbeinu en Égypte. Mais c'est d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on parle, on parle essentiellement quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle de la sortie d'Égypte et on devrait parler de la première naissance, non? Mais on ne peut pas parce que c'est seulement au moment de la naissance égyptienne, en fait. On prend conscience que s'il y a eu une naissance, c'est qu'il y a eu une conception, puis ensuite une grossesse. Et ça s'est fait sous un autre nom divin. Ce qu'Hachem a dit à Moshe Rabbeinu. Les Avot, ils ont connu Kel Shakai. Ils ne me connaissaient pas autrement. Ils ne me connaissaient pas du tout sous le tétragramme. Ils ne m'ont pas vu à l'œuvre comme ça. Donc à ce moment-là, ce qu'on pourrait dire, c'est que justement, la naissance du clan d'Israël, c'est vraiment en Égypte, mais quelque part, il y a eu une pré-naissance, ou une grossesse, une conception, etc. Plutôt que de dire que c'était une fausse naissance. Parce qu'on pourrait dire que c'était une naissance, le temps d'avoir un vino, parce que je vous ai dit déjà que le Rambam dit qu'en Égypte, on a tout oublié d'Avraham Avinu. Cet oubli, il présente les choses comme si on aurait pu ne pas oublier et continuer dans la suite d'Avraham Avinu, la suite d'Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, etc. Bon, il y a eu un problème. Mais c'est-à-dire c'est un problème qu'Hachem avait prévu. Il fallait en passer par ces ténèbres, en quelque sorte, que représente l'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, la Maka, avant Maka de Bechorot, c'est Rocher. C'est les ténèbres plus profondes avant la sortie. Donc, en fait, dans le récit, si on continue le récit, alors on va raconter Yaakov en Égypte, qui descend en Égypte. Comment il descend en Égypte? Bon, ça, si vous êtes sage, on en parlera la prochaine fois. Petite histoire, il faut toujours arrêter un peu avant, parce que sinon... Voilà.